Bonjour, je suis Didi et je suis ravie de vous accueillir sur Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes pour qu'elles partagent avec nous des clés pour faire des choix plus éclairés. Bonne écoute! Posez-vous la question, combien de temps consacrez-vous au rangement par semaine chez vous? Est-ce que c'est un plaisir? Une corvée? À quelle fréquence triez-vous vos vêtements? Est-ce que vos placards débordent ou au contraire, est-ce que vous avez trouvé une solution pour faire main basse sur les objets de votre quotidien facilement et sans contrainte? Ranger sa maison peut parfois paraître insurmontable, enfin si vous êtes comme moi. Pas le time, trop de boulot, autre chose à faire, boring! Quelques chiffres, vous savez que j'aime bien ça, selon une enquête menée par la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, puisque oui, il en existe une, 74% des gens considèrent avoir des problèmes pour ranger chez eux et 53% des gens se considèrent peu ou pas organisés. Et pourtant, avoir une maison ordonnée et adopter un système de rangement permettrait de diminuer la charge mentale, reprendre le contrôle de son temps et même renouer avec une consommation plus réfléchie et raisonnable. Si comme moi, vous avez besoin de clés pour mettre en place un plan d'action efficace et pour avoir une maison rangée sans qu'elle ressemble pour autant à un appartement témoin, vous allez aimer cet échange avec Adélaïde, Home Organizer. Bonjour Adélaïde.
Bonjour Delphine.
J'aime bien parce qu'en fait, on s'appelle Adé dans la vraie vie et tout, mais...
C'est ça, bah là, tout d'un coup, c'est
un petit peu officiel. On a un micro, on est obligé d'être officiel, donc ça. Voilà. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Tout à fait. Bon, déjà, merci à toi de m'accueillir, Delphine.
Avec joie.
Donc, je m'appelle Adé. Je suis donc home organizer depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai fait une formation en ligne de 6 mois. Maintenant, donc, je suis home organizer ou organisatrice d'intérieur. On dit aussi professionnelle de l'organisation. J'accompagne des clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers, pour le réaménagement de leur intérieur. On va trier, désencombrer, mettre en place une nouvelle organisation qui leur ressemble et qui leur permette d'avoir un quotidien plus facile ou au niveau professionnel aussi, que ce soit en télétravail ou j'ai déjà travaillé pour une podologue, de gagner du temps aussi au quotidien.
Ah ouais, c'est vraiment professionnel et particulier.
Exactement, ça s'adresse aux deux.
Ça fait trop envie. On va enfin savoir ce qu'est une maison rangée grâce à toi, parce que je crois que j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu veux bien nous dire d'où t'es venue en fait cette envie de devenir organisatrice d'intérieur?
Donc j'ai 4 enfants.
Ouais, c'est un bon postulat.
C'est ça, c'est ça. Et un mari qui partait beaucoup pour son travail. Il était absent parfois 6 mois par an. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec mes 4 enfants, mon mari absent, je ne travaillais pas à cette époque-là, j'y arrivais pas. Et qu'en fait, l'ordre, une organisation, ça nous facilitait la vie à tous, ça me sécurisait et ça sécurisait aussi mes enfants.
Ouais, et puis ça te faisait gagner du temps.
Gagner du temps au quotidien, ça évitait pas mal de conflits. Pas mal d'engueulades, parce que quand t'as 4 enfants et que t'es solo, parfois la charge mentale, elle est un peu
en
mode voilà, XXL. Donc, et c'est comme ça que j'ai découvert le métier d'home organizer, par les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, mes enfants grandissant, mon mari étant plus présent, j'avais envie de reprendre une activité professionnelle. Et je me suis dit, mais c'est pour moi.
Comment tu définirais ce métier d'organisatrice d'intérieur?
Alors, c'est un métier de l'accompagnement, avant tout. C'est vraiment un métier humain. C'est-à-dire qu'on va chez les gens, on rentre dans leur intérieur.
Et dans leur intimité.
Et dans leur
parce
intimité.
Parce que c'est hyper fort de rentrer chez les gens.
Et donc, c'est vraiment un métier d'échange et d'aide, si tu veux. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu au début. Ce n'est pas qu'un métier de maniaque où on met des boîtes et des étiquettes partout.
Pas que.
Pas que.
J'aime bien ta définition.
C'est-à-dire que, si tu veux, les gens, ils vont te raconter, pour que tu puisses les aider, les accompagner au mieux. Les gens, ils vont t'expliquer leurs habitudes du quotidien, ce qui les pèse, pourquoi ils font appel à toi. Donc, il faut avoir beaucoup d'empathie. C'est vraiment un métier de l'empathie et de l'accompagnement.
Et d'écoute aussi beaucoup, j'imagine.
Voilà, et c'est ce qui me plaît énormément.
Bon, alors du coup, tu me vois venir. C'est toujours bien rangé chez toi?
En vrai, oui, en plus. Il faut être complètement honnête. Mon mari et moi, on est assez ordonnés. Et mon mari dit souvent, c'est un peu notre showroom, la maison. Mais c'est vrai que chaque chose a une place et ça facilite vraiment le quotidien. Bon, après, j'ai quand même des ados. Donc, je ne te cacherai pas que parfois dans la chambre des ados...
Tout n'est pas parfait.
Non, c'est loin d'être parfait.
Ouais, ça, c'est un thème sur lequel on pourra revenir. Parce que globalement, une des questions que je me posais, c'est est-ce qu'on a du mal à ranger parce qu'on achète trop ou juste parce qu'on n'a pas, pas été livré en kit de base avec la petite case organisation, quoi.
On ne n'est pas forcément organisé. Il y a différents types d'intelligence.
Tu veux dire que tout espoir reste permis?
Le rangement, ça s'apprend. Parfaitement, le rangement, ça s'apprend. Et effectivement, par exemple, c'est ce que je dis souvent à mes clients, moi, je suis pas matheuse. Tu me mets devant un problème de maths, je ne vois plus rien. Tout est brouillé, alors que tu me mets devant un placard, je sais comment il faut faire. Chacun, on a différentes formes d'intelligence. Moi, j'ai une intelligence pratique. Tout le monde n'est pas doué d'une intelligence pratique. Il y en a, c'est plus théorique, plus matheuse. Mais pas de panique, ça s'apprend.
Génial. Et trier, justement, on ne peut pas le faire tout seul. On a vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider.
Alors déjà, bon, donc ça dépend de ton postulat de base, hein, de tes capacités. Mais Effectivement, souvent, le tri, c'est que si les gens font appel à moi, c'est qu'ils n'ont pas le temps, pas l'énergie aussi, parce que faut quand même, ce que j'apporte aussi à mes clients, c'est mon énergie, mon expertise aussi. Parce que parfois, tu étais comme une poule avec un couteau, tu te dis comment je fais, par où je commence, etc.
Puis tu peux être découragé par la tâche aussi. Et je trouve que quand tu as le nez sur un problème, en fait, effectivement, ça peut être très utile d'avoir quelqu'un qui vient te prendre par la main et qui te dit « Bon, alors, je t'explique, on va prendre un peu de hauteur. »
Et puis, on est quand même dans une société où les gens n'ont pas le temps et ont un besoin d'efficacité au quotidien, puisque comme on a de moins en moins de temps, des espaces de plus en plus petits, on a besoin d'efficacité au quotidien. Et du coup, c'est pour ça que les gens font appel à moi.
Bon, alors on va entrer dans le vif du sujet, ma chère Adélaïde. J'adore t'appeler Adélaïde, je sais que toi, t'aimes beaucoup ça aussi. Quelles seraient pour toi les 10 règles d'or pour un intérieur ordonné? Enfin, 10, d'ailleurs, je dis les 10. Les règles d'or.
Les règles d'or.
Les règles d'or.
Les règles d'or. Alors déjà, une des premières règles d'or, mais donc ça, c'est un large sujet que tu me donnes.
Vous avez 4 heures, la calculatrice n'est pas autorisée.
La première chose à faire, c'est de trier, ouais. Si tu veux un intérieur rangé. Parce que si tu passes ton temps, on est quand même dans une société où on consomme pas mal, si tu fais rentrer des choses tout le temps, mais qu'il n'y a rien qui ressort, aujourd'hui on dit un objet qui rentre, un objet qui sort. Bon, je ne suis pas aussi drastique que ça si tu veux, mais la première chose c'est vraiment de commencer par trier. Parce que souvent j'ai des clients qui me disent « je range tout le temps, le désordre revient ». Ah ben c'est normal.
Ah oui, mais c'est clair. Si c'est qu'en fait, tu continues à faire rentrer.
Beaucoup trop de choses. On a beaucoup trop de possessions et donc le tri, c'est pas forcément facile. J'accompagne beaucoup, justement.
Oui, c'est ça, parce que tu vois, moi, typiquement, je pense que je trie régulièrement, mais aussi parce que je fais rentrer régulièrement des choses à la maison.
C'est tout pareil.
Voilà. Le problème étant que je déteste jeter, par exemple. Moi, c'est un truc, jeter un objet qui a une utilité, ça me rend mais malade. C'est-à-dire que même si moi, je n'en ai plus l'utilité ou qu'il ne me plaît plus ou que voilà, je ne peux pas mettre à la poubelle quelque chose, tu vois, qui peut potentiellement encore servir à quelqu'un. Du coup, c'est une tannée parce que j'ai mes petits tas de « je donne », « je vends », mais donc c'est stocké quelque part le temps d'eux. Voilà. Est-ce que tu as des conseils pour trier efficacement?
Alors déjà, ça dépend de la catégorie que tu veux trier. Par exemple, ouais. Sur un vêtement, je vais te donner un exemple de base, une jolie pièce que tu aimes. Mais tout d'un coup, tu peux te poser les questions suivantes. Tu te dis, est-ce qu'elle est encore à ma taille? Parce que parfois, ouais, voilà, on a des petites variations.
Il y a un petit delta.
Voilà, avec les enfants, la vie, bref. Est-ce qu'elle est en bon état? Si elle est trouée, bouffée par les mythes, voilà. Est-ce qu'elle est encore à la mode? Et aussi, est-ce que je l'ai portée dans la dernière année qui vient de se passer?
Mais ça passe si vite, un an.
Ben oui, mais...
J'ai des housses de fringues, je n'ose te l'avouer. Compactées avec de l'antimite.
Ah ouais, ouais. T'as mis de l'antimite, c'est déjà
bien
pas mal.
Bien sûr, bien sûr.
Mais parfois, si dans tous ces critères, tu réponds non à tous les critères, tu sais que ça veut dire qu'il faut que tu donnes ou que tu vendes. Après, tu peux aussi donner à des associations.
Oui,
ça
oui,
donne,
bien sûr.
Ça aide à donner en disant, mais s'il y en a des super biens avec des dressings responsables ou tu sais, ils retapent les vêtements, ouais. Ils les revendent pas cher à des gens qui en ont besoin. Tu as plein de systèmes aussi, de dons qui peuvent t'aider.
Mais pareil, ça, tu vois, il faut les chercher.
Ah ben
non,
oui.
Mais je pousse un peu, je fais exprès. Hein. Tu me vois là dans mon rôle.
Ouais.
Non, mais tu vois, quand tu as un quotidien déjà hyper chargé, trier, c'est un sujet parce qu'il faut prendre le temps de trier. C'est clairement une charge qui incombe. Alors, j'ai pas regardé des chiffres là-dessus, ce serait intéressant, mais c'est une charge qui incombe quand même majoritairement aux femmes, hein, on va
évidemment.
Pas se mentir.
Ah ben.
Donc, tu vois, tu bosses, tu as tes enfants ou pas d'ailleurs, tu as un quotidien super chargé. Et en plus, tu dois trouver la ressource nécessaire en temps pour trier, puis chercher les bonnes assos à qui donner.
Oui, c'est sûr. C'est pour ça que mon boulot existe.
Oui, c'est ça. J'adore.
C'est pour ça que mon boulot existe, c'est que les gens n'ont pas le temps. C'est ce qu'on a dit. Et puis, tu n'as pas forcément l'envie aussi.
Ouais.
Comme tu dis, parfois, tu vois tes petits tas qui s'accumulent et tu te dis, bon, ouais, je verrai.
Mais surtout, alors moi, je suis la chef de « je planque le bordel ». Du coup, c'est très agréable au quotidien parce qu'en fait, c'est rangé chez moi, mais il ne faut pas ouvrir un placard.
C'est-à-dire que si j'ouvre tes placards...
Oui, c'est ça, ça va tomber dessus. Non, là, ça va parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. J'ai emménagé il n'y a pas assez longtemps. Ça va faire un an bientôt ici, donc on a encore un peu de marge. En revanche, à Paris, c'était l'enfer parce que j'étais dans un deux pièces, que j'avais deux enfants dans un deux pièces, que j'avais pas de chambre à coucher et que j'avais pas de bureau. Donc, oui. Autant te dire que je cumulais activité pro et tout le perso. Donc là, c'était un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y avait deux ou trois placards, tu les ouvrais, sincèrement, ça te tombait dessus. Je pense que tu aurais fait une crise d'apoplexie. Ou alors, tu aurais été hyper excitée en mode « Yes, un bon terrain de jeu,
là,
on va bien s'amuser !» Donc ouais, dans tes règles d'organisation pour un intérieur ordonné, trier.
Donc, le premier, c'est vraiment de trier. Donc soit tu tries par pièce... Soit ouais. Tu tries par catégorie d'objets.
Okay.
Moi, personnellement, je trie plus pièce par pièce avec mes clients. Mais par exemple, tu peux trier tous tes livres. Tu peux te dire, aujourd'hui, je vais trier mes livres ou je vais trier tous les vêtements. Voilà, ça dépend. Il y a différentes techniques. Après, tu dois donc désencombrer.
Ouais.
Donc, c'est ce que justement dont tu parlais. Désencombrer, c'est hyper important parce que si tu gardes ton tri à la maison, en fait, le foutoir, il va être là sous tes yeux.
Ah ouais, c'est clair.
Donc vraiment, il faut se prendre en main. Ou alors, tu demandes à ta home organizer que tu as embauché
voilà. de désencombrer. Je pense qu'on va bosser ensemble, Adé.
Parfois, je vais donner, justement, je pars avec les sacs dans le coffre.
Ah ouais.
Parce que les gens n'ont pas le temps et je désencombre pour eux. Très
souvent. Mais ça, tu sais que c'est un vrai plus. Hein, parce que, sincèrement, l'énergie que ça requiert.
Ah ben oui.
Tu vois, je te donne un exemple pour les vêtements d'enfants. Donc, ça revient quand même à une fréquence assez élevée hein, quand ils sont tout petits. Donc, plus les saisons, etc. Moi, je fais 4 piles pour les enfants. J'ai une pile, je donne à des assos, voilà. J'ai une pile, je garde pour mon neveu ou mes copines qui ont encore quelques enfants en bas âge. C'est une denrée rare, hein, 40 ans passés, quand t'es un peu après tout le monde, tu donnes moins aux copains quand même. Mais voilà, et j'ai après 2 piles de, même 3, j'ai 5 piles en vrai. J'ai une pile, je vends sur Vinted et compagnie. J'ai une pile, je vends dans un dépôt-vente qui est ailleurs, qui est génial,
oui, dont t'as parlé.
Mais qui ne reprend pas toutes les marques. Et j'ai la dernière pile, je revends à l'autre vide dressing qui est génial, Family Affaires, qui est à Paris et partout en France puisque c'est sur un site internet, mais qui reprend d'autres marques en complémentarité avec le dressing des petits ailleurs, tu vois. Donc j'ai 5 piles, tu vois le délire, quoi. Et ça revient tous les 6 mois. Et donc en fait, je trouve ça génial que toi tu proposes, tu vois, de partir avec les sacs des clients, parce que moi typiquement, aller, ça me prend du temps et tu vois de l'énergie,
ouais, ça
et,
prend
de la,
du temps.
Et de la ressource mentale et tout, de me dire ok, donc là je fais mes 5 piles, ok, donc là aujourd'hui je vais faire mon petit aller-retour ailleurs, je vais mutualiser parce que je vais pas y aller que pour ça, etc., etc. Donc tu vois, c'est quand même sacrément engageant d'arriver à faire un bon tri efficace et désencombrer, ce que tu dis.
Bah, c'est hyper important, c'est vraiment la base, parce que si tu tries pas et que tu désencombres pas, ça le foutoir va revenir tout le temps.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, ça sert à rien.
Ok, voilà. Donc 2 règles d'or, trier, désencombrer.
Voilà, et après, donc, mettre en place une nouvelle organisation. Donc ça, l'organisation, il faut qu'elle ressemble à la personne, évidemment. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui soit intuitif et rapide. Donc, il y a la règle des 3 gestes, dont je parle souvent. J'en avais parlé dans un atelier où tu étais. C'est qu'au-dessus de 3 gestes, le cerveau humain ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, pour vous donner un exemple, je dis n'importe quoi pour un enfant. Le premier geste, tu tires la caisse. Le deuxième geste, tu sors le jouet. Le troisième geste, tu repousses la caisse dans son rangement. Mm-hmm. Donc, s'il y a plus de 3 gestes, si tu dois ouvrir, remettre, refermer, remettre dans le placard,
ça ne sert à rien.
Ça sert à rien. Le cerveau humain, il est un peu fainéant.
Mais pour les adultes comme pour les enfants.
Pareil.
Okay.
Là, j'ai cité l'exemple des enfants.
Oui, oui.
Mais pareil, le cerveau humain, il est un peu fainéasse. Donc, au-delà de 3 gestes, il ne va pas avoir envie d'aller au bout du geste. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit intuitif et rapide, le rangement. Et puis même si tu veux l'imposer à toute ta famille, enfin,
oui, si tu as
l'imposer, mais si tu veux
généraliser les bonnes pratiques.
Exactement, ce qui est quand même le but.
Ouais.
Et ben, faut que ça soit assez facile.
Donc 3 gestes maximum.
Ouais, c'est hyper important.
Tu as d'autres conseils comme ça pour,
bien sûr, donc
bien sûr, j'arrive, j'ai la panoplie.
J'en ai plein.
Génial.
Donc pour mettre en place donc une nouvelle organisation, c'est aussi mettre en place des nouvelles habitudes. Pareil, notre cerveau, on dit qu'il met 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Donc, c'est-à-dire que pendant...
Non, mais tu sais que ça, c'est quasiment comme les crèmes. Pour qu'une nouvelle crème soit adoptée par ton visage...
Ah bon, c'est 21 jours,
je ne savais pas. Je pourrais pas te certifier à 100% que c'est 21 jours.
C'est
je crois que c'est 1 mois, donc c'est kiff-kiff, tu vois. Pour que, tu vois, tous les gens qui te disent au bout de 2 jours, cette crème est extraordinaire, je n'ai plus de rides, elle est formidable. Non, c'est bullshit. Comme ça, vous le saurez. À part, t'es terminé, excuse-moi. Donc, il faut 21
t'inquiète,
jours.
T'inquiète. 21 jours pour que ton cerveau mette en place une nouvelle habitude. Donc, il va falloir que pendant 21 jours, tu t'obliges à ranger les choses à la bonne place ou à mettre tes chaussettes sales dans la panière ou à demander à tes chérubins, ton époux.
Cet exemple est tout à fait pris au hasard.
Tout à fait pris au hasard. Et au bout de 21 jours, ça ne demandera plus d'effort. Ton cerveau le fera, ça deviendra un automatisme et donc ça deviendra quelque chose de facile.
D'où l'idée aussi de ranger toujours les choses au même endroit, c'est
voilà.
ça
Parce Exactement.
Que finalement, tu ne te poses plus la question, tu le fais complètement naturellement.
Par automatisme.
Okay.
Il faut juste attendre 21 jours et se forcer un petit peu. Il y a un petit peu de boulot.
Trier, désencombrer 21 jours.
Voilà.
Okay. Donc, la règle des trois gestes.
Des 3 gestes, donc 21 jours. Après, donc, il faut trouver une place pour chaque chose. Quelque chose donc, comme je te disais, de logique et intuitif.
Il faut que tu définisses. Moi, par exemple, j'essaye de mettre, je te dis une connerie, toutes les casseroles au même endroit avec les couvercles au même endroit et les queues de casserole au même endroit. Parce que si je dois ranger les queues à un endroit, c'est très élégant d'ailleurs. Ça. les couvercles, etc., ça le fait pas, quoi.
Voilà, exactement. Et souvent, tu organises par catégorie.
Ouais.
Donc, toutes les crèmes solaires au même endroit, les anti-moustiques, je dis ça parce qu'on est dans le sud, hein,
oui.
C'est pas pour faire ma crâneuse, mais
non. Non, attends, on va perdre des auditeurs, là.
C'est ça. Donc, comme ça, tu gagnes du temps, toute la famille s'y retrouve, tout le monde peut reproduire
Oui, c'est ça aussi, parce que l'idée, c'est aussi de déléguer, on est bien d'accord.
Ah oui, l'idée, c'est que tout le monde participe.
Oui, c'est ça.
Dans le meilleur des mondes, en souriant.
Donc, on rigole sur le caleçon et les chaussettes sales, mais si je veux que mon mec change enfin ses habitudes, après 25 ans hein, de couple, il faut que je m'astreigne à lui expliquer, à lui réexpliquer pendant 21 jours où se trouve le panier à linge.
Ouais, faut que pendant 21 jours, tu lui dises, chérie, tes chaussettes, tous les jours. Puis au bout d'un moment, normalement, dans l'idéal...
Bon, écoute, je vais tenter l'expérience, je te dirai.
Bah,
tu vas sauver mon couple.
C'est ça.
N'ayons pas peur des mots.
Parce que le cerveau n'aime pas le désordre. C'est ce que je te disais avant pendant qu'on préparait ce podcast. J'ai lu une étude donc, du Nouveau-Mexique en 2016 qui a été faite.
Ouais.
Et il dit qu'en fait, le cerveau déteste le désordre. Ça le stresse. C'est vraiment quelque chose qu'il n'aime pas.
Il n'est pas calibré.
Il n'est pas calibré. Ça te renvoie en plus une mauvaise image de toi-même. Et du coup, ça peut même aller vers un peu des dépressions. Quoi.
Ah ouais,
donc, il est très important de se rendre compte que notre cerveau préfère ranger. Bon, c'est rangé.
Fou, tu sais, on met souvent en avant les bureaux d'artistes dans un joyeux tohu-bohu de foutoir, plus ou moins.
On m'a déjà dit ça.
Ouais.
On m'a déjà dit pour moi, je sais pas, c'est un lors d'un dîner, un type qui m'a dit, tu vois, moi, pour moi, justement, les gens intelligents ont toujours du désordre partout. Bon, si tu veux.
Bon, désolée d'être con.
Voilà, je me suis sentie un peu comme ça, effectivement.
Ouais, tu m'étonnes. C'est amené
c'était
de manière très,
sympa.
Très diplomate.
C'était
ouais,
très
c'est
sympa.
Clair.
Je lui ai expliqué mon boulot, il m'a dit ça, j'étais à bon, on va arrêter de parler.
Ok, écoute, je te souhaite une bonne soirée.
C'est ça.
Hyper sympa. Ok, donc une chose, attends, c'est quoi le proverbe, le dicton, c'est...
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est très important. Voilà, donc, une autre règle encore, donc la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que si ça prend moins de 2 minutes, il faut que tu le fasses tout de suite. Ou on peut appeler ça aussi le geste définitif. Je te donne un exemple. Ton mug de thé, là, délicieux qu'on est en train de voir, au lieu de le poser dans le lavabo, tu le mets direct dans la machine. En fait, ça te prend vraiment, là, en l'occurrence, 15 secondes. Mais tout ça, tous ces petits gestes mis bout à bout, ça va te faire gagner du temps. Donc ça, c'est hyper important. Hein, parce que parfois, on a un peu la flemme.
Ah oui.
Voilà.
Parfois, ouais, t'es mignonne.
Mais il faut aller jusqu'au bout. Et pareil pour toute la famille. Tu dis à toute la famille, il faut aller jusqu'au bout. Non, ne pose pas.
En fait, c'est fou parce que tu te laisses tellement happer par le quotidien. Tu vois, moi, je vois le soir... 36-15 ma vie, je couche les enfants, je les fais dîner, je les couche, enfin on les fait dîner, on les couche, un chacun, comme ça on répartit la tâche. On laisse forcément t'enchaînes, tu ranges pas, enfin tu vois les petits, on leur inculque de ranger un minimum, de débarrasser, de mettre les trucs à la poubelle, etc. Mais globalement, on laisse un peu ça à la va comme je te pousse une fois que la première étape a été faite. Le coucher, ça peut durer un peu longtemps, tu redescends, t'as pas mangé, il est 21h, tu te fais un petit frichetis, machin. Et en fait, la tentation est quand même super grande de se laisser complètement aller et
de laisser
tout le bordel. Voilà, c'est ça. Et j'avoue que c'est vrai que ça m'arrive. Hein, et le lendemain, quand tu te tapes ta cuisine en bordel des potrons minés, c'est pas la meilleure manière de commencer la journée. Et en plus, ça te prend beaucoup plus que 2 minutes pour le coup.
Voilà.
Donc,
Et puis, tu te réveilles, t'es de mauvais poil, t'as une mauvaise image de toi en disant, je suis une grosse
géniale. J'ai déconné.
Puisque, voilà. Alors que si tu utilises la règle des 2 minutes, tu vas ranger au fur et à mesure et du coup, tu n'en arriveras pas à un monticule de vaisselle dans le lavabo.
Ouais, qui va être décourageant. Quoi.
T'as pas envie.
Ok.
Comme le cerveau est un petit peu une
feignasse,
il a pas envie.
Il a envie de s'épargner ça.
C'est
okay.
ça. Il faut également, donc, comme on parle de famille, montrer l'exemple. L'exemplarité, c'est hyper important. Parce que si tu dis toute la journée à tes enfants, range ta chambre,
et que, la tienne...
et que ta cuisine ressemble à un dépotoir, ils vont dire, maman, t'es sympa.
T'es sympa, mais oui.
Mais bon.
Oui.
Ça a montré l'exemple en famille, c'est vraiment hyper important.
Toute ma vie, on m'a dit ça, j'étais l'aînée, il faut que tu montres l'exemple et tout. Non, et tu rigoles, mais je pense qu'il y a vachement de déconstruction. T'es un peu psy, en fait, toi, je pense. Non, mais c'est...
On dit que le rangement a beaucoup de bienfaits psychologiques, ça,
oui,
c'est
oui.
sûr.
Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de foutoir, etc. Moi, je sais que j'analyse aujourd'hui, j'aurais été incapable de te le dire il y a encore peut-être même 5 ans, tu vois. Mais moi, je me suis beaucoup construite en opposition par rapport à ma mère. Qui était une femme d'intérieur, mère au foyer, plus ou moins subie parce que on était 4 et qu'elle a
sacrifié. C'était une autre génération. Ouais.
C'était une autre génération. Donc, tu sais, vraiment la vraie maman au foyer, quoi, qui fait toutes les lessives, l'entretien de la maison, la cuisine, les courses, toute la logistique à 200%, les activités des uns des autres, etc. Et en fait, je crois que ça m'a un peu écœurée, tu vois, comme modèle. Je voulais vraiment pas ça, mais à tel point que je commence à cuisiner aujourd'hui parce que j'y trouve du plaisir, parce que déjà, j'aime manger, donc c'est pratique. Si t'aimes manger, c'est bien de savoir cuisiner. Mais au-delà de ça, quand t'as des enfants, tu te dis que tu vas peut-être pas leur donner n'importe quoi, n'importe comment, donc voilà.
C'est ça.
Mais... Tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant finalement, parce que quand tu tires le fil du rangement, bien sûr que c'est pour un confort au quotidien, bien sûr que c'est pour adopter finalement, et on voit bien le lien quand tu as une maison mieux rangé, tu accèdes mieux à c'est les objets que tu as, donc tu n'as pas besoin de les racheter. Combien de fois, moi, j'ai racheté un truc parce que j'avais oublié que je l'avais à la maison, tu vois. C'est pathétique, en fait. Tu te dis non, là, quand même, on va trop loin, c'est pas possible. Mais il y a quand même tout ce truc-là qui vient aussi en ligne de compte où tu te dis, ben, il y a quand même une incidence, évidemment, de l'éducation que tu as reçue, ta personnalité, comment tu te projettes. Et tout ça, parfois, c'est même limite inconscient, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant. Je pense que tu dois remuer pas mal de choses quand tu interviens chez des clients.
Je pense. Alors, j'essaye vraiment d'y aller, je te dis, avec beaucoup d'empathie.
Ouais.
Et de douceur et par petites touches quand je sens que c'est un peu douloureux. On a parlé tout à l'heure des objets dont on a du mal à se séparer. Ouais. Vraiment, si je sens qu'il y a un blocage, je dis écoute, c'est pas grave, on en reparle après. Ou alors, tu peux garder. Enfin, je suis pas une ayatollah du tri qui va forcer les gens à tout balancer. Pas du tout. Il faut vraiment y aller en douceur parce que chacun son histoire.
Ouais.
Bon, et déjà, moi, je veux dire bonjour, bravo à ta mère parce que moi, j'ai fait ça pendant des années aussi. Et c'est un,
et
c'est
tu
un
sais
boulot.
Ce que c'est.
Ah ouais, c'est un boulot à
plein temps. C'est un truc de dingue. Tu peux pas savoir. Enfin là, on va digresser, mais en gros, moi, je parle toujours de ce podcast et ça fait trois fois que je le cite dans mon propre podcast et j'en parle en veux-tu, en voilà, dans mes stories, etc. Mais c'est comment j'ai retrouvé ma mère, qui est par un magazine belge, Axel Magazine, qui est génial parce que c'est en 9 épisodes et c'est en fait la manière dont une femme qui devient mère renoue en fait le lien avec sa propre mère.
Complètement.
Et en fait, tout ça, c'est hyper intéressant parce qu'elle dit notamment qu'on est dans une société ultra patriarcale qui a été pensée par les hommes pour les hommes. Et tu vois, ça, c'est un truc assez dingue parce que c'est une sorte... Tu le sais. Et en fait, de l'entendre, tu te dis, mais c'est complètement ouf. Et en fait, dans ce podcast, elle te dit à un moment, la société attend de toi que tu sacrifies en tant que femme ton métier, ton plan de carrière, etc. Enfin, tu vois, on le dit bien, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais c'est clair, pour qu'un homme il puisse avoir la carrière dont il rêve, pour que l'homme puisse se réaliser, etc. Ah bah combien de femmes sacrifient, tu vois, derrière leur propre plan de carrière, etc. Et ma mère, c'est ça. Je ne pense pas qu'elle était du tout vouée pour être femme au foyer. C'est juste qu'elle a eu 4 enfants en 5 ans et demi.
Chapeau.
Quand je suis en train de galérer avec les deux miens, je me dis, elle en avait le double. Hein, donc voilà. Bah, on va fermer la parenthèse. Mais tu vois,
non, mais bien sûr. Tu sais qu'on dit que 77% des femmes souffrent d'une trop grande charge mentale. Et que malgré tout, notre génération, il y a plus de répartition des tâches. Mais majoritairement, c'est les femmes qui font les tâches ménagères.
Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Et qu'on te dit, quand ton mec met la main à la pâte, oh, t'as de la chance.
Il t'a aidé. Non, il a participé.
C'est normal, en fait. Hein, voilà. Voilà, donc voilà. Revenons avec nos bons conseils pour une maison ordonnée et bien rangée. Et messieurs, j'espère que vous nous écoutez.
Tout à fait.
De toute façon, on le mettra, ça c'est le truc, tu sais, moi pour faire écouter des trucs à mon mec, bah, typiquement toujours le même podcast dont j'ai parlé. Quand j'ai un doute sur ce que je vais lui faire écouter, j'attends qu'on fasse un trajet en voiture. Je le prends en huis clos et paf.
Il n'a pas le choix.
Bah non, prise en tu mets page. Dans la voiture et clac, voilà, petite astuce.
Donc, également établir des routines. Donc voilà, il faut vraiment que ça devienne, donc, comme on parlait, 21 jours. Et si tu mets en place des routines du quotidien, ça peut paraître parfois un petit peu genre, mais il ne faut pas que ce soit rébarbatif, une routine. Ça va être quelque chose que tu vas faire de façon naturelle au bout d'un moment. C'est très important. Donc, on a dit montrer l'exemple et établir des routines.
Okay.
C'est pour la famille.
D'accord.
Et alors, un point aussi sur lequel j'étais assez étonnée d'ailleurs parce que je fais des ateliers, tu sais.
Ouais.
Et j'ai dit, donc, faire son lit tous les matins aussi. C'est très important.
Ouais.
Et tu découvres qu'il y a plein de gens qui ne font pas leur lit tous les matins.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Il y a d'ailleurs un best-seller qui a été écrit aux États-Unis qui s'appelle « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit ».
Ah ouais, hein, c'est bon.
Ça a eu des milliers et des milliers de lecteurs. Et effectivement, si tu ne fais pas ton lit tous les matins, tu n'es pas dans un bon état d'esprit. Ça ne dynamise pas. Faire ton lit tous les matins, ça te met dans un bon état d'esprit. Tu as l'esprit libéré quand tu rentres dans ta chambre.
Ouais, c'est vrai.
Tu es bien. Tu vois, ça te met dans des bonnes dispositions et ça, c'est hyper important.
Mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je fais mon lit tous les matins. Oui, good girl.
Bravo,
clap, clap. Mais blague à part, effectivement, les rares fois où je le fais pas, oh, déjà, t'as pas envie d'aller te coucher parce
non.
que c'est crado. Quoi.
Ouais.
C'est pas
agréable.
C'est pas agréable. Visuellement, c'est de la pollution. Effectivement, tu rentres, tu te dis oula. Ouais, non, je suis d'accord.
Donc, c'est très important parce que le rangement, ça donne aussi une meilleure estime de soi. Quand t'as rangé, quand t'arrives, ta maison est propre, tu te sens bien,
c'est
agréable
vrai.
Et tu dis yes.
Mais tu sais que moi, j'adore avoir des gens qui viennent à la maison parce que ça me force à ranger encore plus que ce que je peux faire d'habitude. Non, mais c'est vrai. Tu vois, typiquement, là, avant que t'arrives ce matin, en plus, toi, tu vois, j'ai une grosse pression, quoi.
Oh non,
parce que tout le monde te dit ça, tu sais. Mais
c'est clair que tout le monde me le
mais
dit.
Mais c'est sûr. Mais c'est évident. Ouais, bah, tu vois, quand tu reçois quelqu'un chez toi, t'as quand même pas envie de lui imposer ton bordel, quoi. Donc, tu fais un minimum.
Ah bah oui.
De faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, qu'il n'y ait pas trop de trucs qui traînent, voilà, pour ton propre bien-être, mais celui de ton invité aussi.
Et moi, donc, du coup, je voulais juste reparler de quelque chose aussi, des bienfaits du rangement, puisqu'on est là-dedans.
Ouais.
Donc, pour bien un peu marquer les points, tu gagnes du temps. tu gagnes de l'espace. Tu évites le gaspillage, ce dont tu parlais, acheter en double. Donc, en fait, c'est quand même une démarche éco-responsable. Tu allèges ta charge mentale, tu gagnes en sérénité. Tu as une meilleure estime de soi. Tu allèges aussi les tâches ménagères. Ça, c'est bien parce que ça, quand même, comme on passe beaucoup de temps au quotidien, c'est pratique. Donc, ça, c'est tous les bienfaits du rangement.
Ouais, ils sont. Enfin, tu vois, typiquement.
T'en as beaucoup.
Non, mais t'en as beaucoup. Et surtout, le lien avec l'éco-responsabilité, il n'est pas forcément évident parce que, à moins d'y avoir été confronté, tu sais. Enfin, tu vois, encore une fois, moi, le nombre de. Ou les fringues. En fait, quand tu les as pas sous le nez,
oui, t'achètes en fait,
tu les oublies. Tu vois, moi, le nombre de petites blouses blanches que j'ai, mais c'est ridicule, quoi. Juste parce que elles sont tellement pendues, serrées, collées, serrées, que je vois plus. Ou alors. Elles sont dans une Xème housse compactor, tu vois, parce que tu fais ton changement de saison, etc. Et que même à Toulon, avec un vrai dressing, j'ai pas encore l'espace de mettre toutes les fringues, tout l'hiver et tout l'été. Mais bon, en tout cas, c'est hyper important d'avoir les choses sous les yeux. Et
voilà, ça évite d'acheter les doublons.
Ben ouais, et c'est quand même un vrai confort.
Donc tu fais des économies.
Oui, c'est ça aussi.
Aussi, tu fais des économies.
Mais carrément, ouais.
Et dernier point, pas des moindres, moi qui ai des ados, ça apaise les relations familiales.
Ah ouais.
Bon, même si mes ados, c'est pas nickel, hein, on va pas se voiler la face.
Ouais, mais ce que tu disais, c'était intéressant, c'est qu'ils ont besoin d'un espace à eux.
C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai lu qui m'a beaucoup rassurée, parce que pour la petite histoire, ma fille est un petit peu beaucoup bordélique, et j'ai lu que c'était normal, que la chambre d'un ado, ça représente un peu son chaos intérieur. Il a besoin de déconstruire pour se reconstruire derrière. Donc, ça m'a beaucoup rassurée.
Ouais, tu m'étonnes. Tu lui en veux moins, du coup.
Peu moins. Mon mari lui en veut toujours autant.
C'est vrai. Bah, elle ferme la porte et puis c'est réglé, non?
Mon mari est maniaque, si tu veux. Donc,
ouais. Il doit kiffer ta profession.
Ah, bah, il adore. Mais moi, je kiffe qu'il soit maniaque aussi.
Bah ouais, forcément.
Parce que si j'avais été mariée avec un bordélique, ça aurait été compliqué.
Ça aurait été
pour
assez
moi.
Compliqué à gérer, voilà. Tu m'étonnes. Et une question qui me vient aussi comme ça, est-ce que ça coûte cher d'être organisé? Parce que quand tu es venue faire un audit de mes placards et de tout ça, tu me parlais de boîtes de rangement, etc. Donc, est-ce qu'il y a quand même un petit investissement?
Alors,
à faire,
pas forcément du tout. Tu peux faire de la récup. Et d'ailleurs, je ne pousse pas du tout mes clients à acheter des nouvelles boîtes, à dépenser des milliers des cents, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Donc, tu peux très bien avec... On a tous des boîtes chez nous, hein, des boîtes à chaussures... Des boîtes de n'importe quoi. La dernière fois, j'avais une boîte de Ferrero Rocher dans laquelle on a mis tous les clous et les vis.
Ouais,
tu vois,
bah voilà. Ouais.
De la récup. Donc, ça coûte pas cher le rangement. Après, si tu veux que ça soit beau.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Soit tu passes du temps, parce que si tu veux pimper ta boîte de Ferrero Rocher, il faut y aller un
voilà.
petit peu.
Soit tu repeins tes boîtes à chaussures, sauf si c'est que des jolies boîtes à chaussures Cézanne dont on
Par
parlait.
Par exemple.
Voilà. Mais ça coûte pas forcément cher. Ou tu peux aussi chiner des rangements. Tu vois, dans les ressourceries, ici, on a pas mal de trucs chez Emmaüs, dans les ressourceries, tu peux
Ouais,
tu peux
ou même, trouver. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait un marché de la seconde main pour les boîtes à foulard Hermès, par exemple.
Ah bon ?
Ouais, parce que j'en avais acheté deux, moi, en vente privée, donc sans boîte, sans rien, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'était quand même très cool. Et forcément, t'as quand même envie d'avoir ta boîte, tu vois. J'avais regardé un peu et ben, tu seras surprise de voir sur Le Bon Coin ou sur Vinted le nombre de boîtes que tu peux acheter. Et assez cher en plus. Hein.
C'est pas, si c'est Hermès, ça m'étonne pas.
Ouais, mais tu vois, c'est une boîte, quoi. Enfin, elle est très jolie. Hein. C'est, et puis, oui. Dans un placard, c'est sûr que c'est plus joli d'avoir un truc bien ordonné, avec un calibre bien défini,
voilà.
etc. Mais il y a une voie pour les boîtes dont vous ne voulez pas, je vous le dis. Si vous avez des boîtes Hermès à vendre, ça peut être valable.
Donc, ça ne coûte pas forcément cher. Tu peux faire de la récup. Après, ça dépend vraiment de chaque client. Il y en a qui préfèrent faire de la récup pour économiser. Il y en a qui disent « Ah non, moi, je veux que ça soit joli. » Donc là, on va prendre des boîtes qui sont toutes les mêmes, etc.
Ouais, moi, c'est le standard que je trouve pratique, en fait. Dans un placard X, je trouve que c'est bien d'avoir un même type de rangement. Sinon, c'est un peu le cas.
Bah, moi, je ne vais pas te dire le contraire, évidemment.
Oui, forcément. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour un quotidien plus organisé, ou est-ce qu'on a déjà,
on en a déjà bien balayé.
On a pas mal balayé, puis il y a encore des questions d'internautes, parce que quand j'ai parlé de toi sur Instagram en story, j'ai eu une pluie de questions qui nous a amené à faire ce podcast, évidemment. On vous prépare avec toutes les deux, avec Adé, plusieurs thématiques, notamment comment ranger les jouets des Minus sans que ça déborde trop dans nos salons ou dans nos vies.
Cohabiter.
Voilà, on va faire en sorte que voilà, toute ressemblance avec la réalité serait évidemment pas du tout fortuite. Quand j'ai ouvert cette boîte à questions, elle a été assez prise d'assaut et je trouvais ça sympa éventuellement qu'on réponde à quelques questions
Bien
ici
sûr.
En direct ou presque. Une des questions qui est beaucoup revenue, c'est qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui serait tellement bordélique qu'il ou elle ne saurait pas par où commencer?
Alors déjà, je vais lui dire de ne pas se décourager.
Ouais.
Parce que c'est ce que j'ai dit au début du podcast, je crois. Le rangement, ça s'apprend. Il n'y a pas de panique. On ne reste pas toute sa vie bordélique. Il faut mettre en place des nouvelles habitudes. Et après, donc, soit cette personne se faire accompagner si elle a besoin, ou sinon d'essayer de faire le point en se disant pièce par pièce ou catégorie par catégorie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais si c'est vraiment trop compliqué pour elle, ne pas hésiter à se faire accompagner. Ça peut être à distance ou on peut juste lui envoyer un plan d'action, etc. Mais parfois, on n'y arrive pas seul. Souvent d'ailleurs, et c'est pour ça que mon métier.
Au limite, t'appelles une copine, non?
Tu peux te faire aider sinon par des gens de la famille.
Oui, voilà,
etc.
Tu vois, je pense que.
On a tous un copain maniaque. Hein.
Comment on arrive à se détacher des objets? C'est ce que tu disais, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, parce que finalement, tu vois, moi, j'ai une caisse, par exemple, au garage, qui est remplie de trucs dont je ne me servirai plus jamais de ma vie, on est bien d'accord. Genre des cahiers de poésie de quand j'étais au primaire, un petit collier de pâtes ou un truc de collier de nouilles, tu vois, le truc, mais inutile. Et j'ai déjà trié, j'ai déjà jeté les trois quarts des trucs, etc. Parce que ça, typiquement, tu peux même pas donner. Donc, gros problème pour moi, tu vois. Voilà, ça n'a pas d'utilité en dehors d'un vieux souvenir qui ne regarde que moi et éventuellement ma mère, mais qui me les a refilés. Donc, autant dire que je pense qu'elle s'en fiche, elle a bien raison. Comment tu fais pour te séparer d'objets qui ont une valeur sentimentale très grande et qui prennent quand même un peu de place, une caisse entière me concernant?
Alors, le rapport à l'objet, c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que c'est très personnel.
Oui, c'est ça.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attache beaucoup aux objets. Après, j'ai des dessins de mes enfants, du CP jusqu'à... Bon, parce qu'ils arrêtaient de me faire des dessins, tu vois. Les cadeaux de fête des mères, ça, j'ai gardé.
Ah ouais.
Après,
c'est trop dur.
C'est trop dur. Donc, le rapport à l'objet, il est très personnel. Donc, moi, j'y vais vraiment en douceur parce que tu sens qu'il y a des gens qui sont vraiment bloqués, quoi. Dans ces cas-là, je dis à mes clients, écoutez, c'est pas grave, on va le garder. Il me dit, oui, mais j'en ai plus besoin. Et si c'est trop douloureux, alors on fait des caisses à souvenirs, on garde. Et puis, ce que je leur dis, c'est... Revenez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce que c'est pas parce qu'à un instant T, tu ne vas pas te séparer d'un objet que dans 2 ans, tu ne diras pas. Ouais. En fait, tu as fait ton chemin, tu diras non, mais finalement, je ne vais pas le garder. Donc, mais c'est vrai que ça peut être. Il ne faut pas se faire violence. Moi, je ne suis pas pour se faire
donc
violence.
Donc, tu te mets ta petite caisse, tu voilà. La gardes.
Et tu essaies de la trier de temps en temps.
Oui, c'est ça. En fait, il faut accepter d'y revenir. Et pas comme moi de l'oublier depuis 15 ans dans ta cave. Quoi.
Faut accepter d'y revenir.
Et de refaire un tri ponctuellement. Quoi.
Exactement.
Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal parce que tu vois, dans le déménagement, là, j'avais déjà fait un énorme tri en quittant Paris, en donnant, jetant, parce qu'il y a des trucs que tu es obligé de jeter, et en participant à un vide-grenier. J'ai refait un vide-grenier en arrivant à Toulon parce que, évidemment, tu sais, t'as beau planifier ton truc 6 mois à l'avance. Bon, en plus, moi, j'accouchais en même temps. Enfin, il y avait 2-3 sujets, 2-3 dossiers en cours, tu vois. Donc, j'ai refait un tri en arrivant à Toulon. J'ai reparticipé à un vide-grenier pour pouvoir encore écrémer. Mais j'en ai encore beaucoup trop. Et là, la semaine dernière, ma mère est venue, claque, je lui ai tout refourgué parce que ça m'arrangeait de refiler à quelqu'un qui allait s'en servir, à qui ça allait faire plaisir. Et puis moi, ça me fait ne pas jeter ou ne pas me séparer trop violemment, tu vois, d'un objet auquel je tiens. Mais j'y suis revenue. Et d'y revenir, eh ben là, je peux te dire que j'ai écrémé, mais j'ai jamais été aussi efficace. Je me suis dit, j'en peux plus d'avoir ce tas de trucs-là qui encombrent. C'est quand même un garage à la base, hein. C'est un garage qui sert de cave. Donc, c'est quand même un peu con, quoi. La voiture, elle dort dehors. C'est un peu débile. Donc, y revenir, je pense que c'est...
Et effectivement, tu vois, moi, donc, quand je travaille avec mes clients, je mets dans les sacs, quand on trie, à donner, à jeter, à garder. Et souvent, j'ai une pile en plus en mettant en attente.
Ouais.
Et je dis, écoutez, on va attendre, on met de côté. Et quand on finalise la mission avec le client, souvent, là, il sait, il a eu le temps de faire son chemin et de dire,
non, mais
je vais garder ou je vais donner.
Génial. Mais c'est vrai qu'on l'entend peu, ça, ce conseil de en attente.
Il faut mettre en attente quand c'est trop compliqué.
Mais j'adore ce conseil, tu vois. Moi qui ai du mal avec ça, je trouve ça génial parce que c'est pas radical comme notre amie Marie Kondo qui d'ailleurs est revenue
sur ce qu'elle a dit
la dernière fois. C'est... Faites ça, mais en fait, non. Ah, d'accord. Ouais. Okay,
en fait, maintenant que j'ai des enfants, je me rends compte que
c'était pas tenable. Ah, tiens, spoiler. Ok. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est quelle organisation pour les vêtements qui ne sont ni sales ni propres?
Alors,
le mimi, double moite-moite.
Effectivement, le pull en laine qu'on ne va pas laver à chaque fois. Moi, j'ai des patères.
Okay.
Dans toutes les chambres de mes enfants également, des crochets au mur dans lesquels on suspend le vêtement en attendant de le remettre la fois d'après.
Okay.
Tu les mets en attente, tout simplement. Tu les mets en stand-by, entre guillemets. Et puis, tu vas le remettre 2 jours après. Ton jean, tu te dis, il n'est pas sale, je ne vais pas le laver tout de suite.
Ouais, c'est clair.
Moi, je ne suis pas pour laver tous les jours, parce que sinon, au bout d'un moment...
Déjà, ça abîme le vêtement, ça pollue, ça,
exactement.
La machine, c'est pas hyper rentable apparemment.
Exactement. Ouais, donc, moi, je mets en attente sur des petits crochets. Ça n'a pas besoin d'être très volumineux, tu vois, au mur.
Et en plus, j'avoue que d'avoir quitté Paris, je lave un peu moins, dans le sens où, tu vois, quand tu prends le métro tous les jours...
Oui.
Moi, je peux pas. Typiquement, quand je rentrais chez moi, après avoir pris le métro, donc tous les jours, parce que je ne roulais plus en scooter à la fin, j'enlevais mon jean. J'étais incapable de poser sur mes fesses de jean qui avaient traîné dans un bus ou dans un métro sur mon canapé. C'était injouable. Donc clairement. Et je lavais mes jeans et mes vêtements beaucoup plus fréquemment, puisque c'est débile, hein, c'est peut-être complètement...
Non, je comprends.
J'avais vraiment besoin de les laver. Là, c'est vrai qu'à Toulon, le vélo à pied ou la voiture, oui, c'est quand même moins... dans mon imaginaire, c'est moins salissant que...
Excuse-moi, mais le métro, ça pue, donc effectivement, ouais, tu sens que...
Ouais, ouais, t'as pas envie t'as pas envie, quoi. Donc, effectivement, avoir ces petites patères, ça peut être une bonne solution pour continuer à faire vivre le mimi. Alors, ça, on a quand même un peu abordé le sujet. Comment faire en sorte que les mecs rangent?
Oui, alors...
Que les mecs ou les moitiés, hein, je sais pas, dans les familles homoparentales, ce que ça donne, mais j'ai quand même l'impression, en tout cas ici, pour parler de ce que je connais, j'ai mon petit caleçon et mes petites chaussettes sales tous les soirs au pied du lit. Et plus si affinité, les 21 jours.
Quoi. Ouais, comme je t'ai dit, essayer de mettre en place des nouvelles habitudes. Bon, au bout d'un moment, si on n'y arrive vraiment pas, bon, voilà. Hein. Mais normalement, si...
Tout espoir reste permis.
Voilà,
quoi.
Tout espoir reste permis. Mais moi, comme je te dis, comme je suis mariée avec quelqu'un de maniaque, j'ai
T'as
la chance de ne pas avoir ce problème.
Je te confirme que c'est une chance, parce que franchement, le caleçon qui traîne depuis 20 ans, j'en ai ras la casquette.
Je ne t'envie pas, effectivement.
Une question qui a été posée aussi par plusieurs personnes et que je comprends d'autant mieux que j'ai vécu dans un deux pièces pendant toute ma vie, ou presque. Comment gérer le linge quand on n'a pas de buanderie ni d'extérieur et qu'on ne veut pas se taper le tankerville ou le sèche-linge, puisque les deux dénominations sont possibles, au milieu du salon?
Eh oui, ça je comprends bien, parce que c'est quand même pas facile. Alors, déjà, je fais un prochain post d'ailleurs sur mon Instagram là-dessus, les buanderies. Effectivement, il y a plusieurs systèmes qui existent, notamment de tankerville ou sèche-linge mural,
ouais,
donc qui se rabattent et que tu peux mettre dans un couloir. Il y en a un qui est un peu en accordéon, donc ça c'est pas mal, essayer d'investir dans ce genre de choses. Peut-être voir si, même s'il n'y a pas de pièce buanderie, si il y a un placard disponible ou derrière un rideau, le cacher dans un couloir derrière un rideau, peut-être essayer de se créer un espace buanderie,
ouais,
possible, parce que parfois tu as des couloirs qui sont assez larges,
ouais,
il suffit de mettre une tringle à rideau, tes machines derrière et ton tankerville mural derrière.
Ça tient, quoi.
Ça tient.
Ouais.
Essayez de trouver un espace. Et sinon, utilisez les murs. Moi, je dis beaucoup ça à mes clientes. Mettre des étagères, utiliser les murs.
Murs ou plafond, parce que tu vois, moi, c'est ce que je te disais. À Paris, les deux derniers appartes que j'ai loués, j'avais mis un système de séchoir qui se déroule. Tu le fixes d'un côté du mur et de l'autre côté, tu mets des crochets. Et en fait, tu tires cette barre que tu fixes de l'autre côté. Et c'est, alors, j'avais de la chance, j'avais des baignoires. Donc, ça prenait l'espace au-dessus de la baignoire. Autant te dire que ça ne prenait pas du tout d'espace, puisque oui, quand il y avait des draps qui pendaient, il fallait un peu se faufiler entre les draps pour arriver à prendre ta douche. Mais globalement, ce n'était pas un espace trop polluant visuellement, et c'était dans la salle de bain, donc il y avait une bonne ventilation. Ce n'était pas comme mes grands-mères, tu vois, dans les appartes des immeubles du 19e ou du 20e siècle, où tu avais à un moment, tu sais, c'est des... Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais... Tu tirais une corde et tu avais en fait un plateau de fil qui descendait.
Ah non, j'ai jamais vu ça.
Et tu le remontais pas. En revanche, c'était dans leur cuisine.
Oui, ce qui est pas...
Donc pour
parfois,
les odeurs,
on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas le choix de mettre dans la cuisine.
Pas le choix, l'une comme l'autre. Mais bon.
Évidemment, éviter de sécher le linge dans la cuisine si on ne peut pas faire autrement. Mais sinon, on risque d'avoir des odeurs de graillons.
Des odeurs, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas ouf. Quoi.
Mais du coup, vraiment utiliser...
C'est le plafond, les murs.
Le rangement vertical, c'est quand même très pratique. On prône beaucoup ça en home organizing.
Ouais.
Parce que finalement, on a tous de la place.
Oui.
En hauteur.
Plus ou moins.
Donc, ne pas hésiter d'utiliser les murs et les plafonds.
Écoute, je crois qu'on a fait le tour. J'ai encore plein de questions à te poser, mais ça, c'est toujours mon problème. Quand je rentre dans un thème, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur le rangement, en dehors de tout espoir reste permis? Et ça, c'est quand même
tout espoir reste
un
permis.
Message hyper encourageant.
Voilà. La règle des 2 minutes, vraiment, je trouve qu'elle est très importante. J'insiste vraiment là-dessus. Et aussi, il y a une autre règle, mais bon, essayez de ranger 10 minutes par jour.
Ouais. Ah ouais, 10 vraiment. Minutes par jour.
Ouais. Ce qui n'est pas énorme, ou même 5 minutes.
Non, c'est clair. Je te dis
et
ça,
essayer de donner l'habitude à tout le monde de remonter ses affaires, parce que donc, j'ai 4 enfants, donc moi aussi, ils s'étalent hein, parfois. Je mets dans l'escalier, souvent, ils passent juste à côté, tu
oui,
vois, personne ne remonte.
Bien sûr, évidemment.
Voilà. Essayez 5 à 10 minutes tous les jours quand même de ranger un espace, sa chambre, ou enfin voilà.
Beaucoup moins à la purge que de se taper après 3
2 heures
de rangement,
l'horreur.
Ouais,
mais personne n'a envie de le faire, ça.
Non, non, non,
alors que si tu t'astreins, donc mettre en place des nouvelles habitudes, de nouvelles routines, essayer de ranger un peu tous les jours. Ne pas hésiter à se faire accompagner si besoin, évidemment.
Ouais. Et inviter des gens pour se motiver à
Exactement.
Avoir une maison super rangée.
Exactement.
Merci beaucoup, Adé, pour tous ces conseils.
Merci, Delphine.
Je vous donnerai, à vous qui nous écoutez, toutes les références. Adélaïde nous a amené des livres aussi pour préparer cet épisode. Donc, je vous donnerai toutes les références. Vous pouvez la retrouver sur Instagram à ad.m. Organisé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Quant à nous, on se revoit très vite puisque nous avons déterminé quelques thèmes ensemble à traiter que vous pourrez retrouver ici et là. Je vous embrasse, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies. À bientôt pour un nouvel épisode.